Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
L'incendiaire présumé de l'immeuble du 16e arrondissement qui a fait 10 morts, un lourd, très lourd, passé psychiatrique. On va y revenir dans un instant. Mais partons d'abord sur place, rue Erlanger. Les habitants de l'immeuble incendié ont évidemment dû passer la nuit ailleurs. Le bâtiment est inhabitable, Mourad Djabari.
Oui, les habitants reviennent, ils sont encore en pyjama, en chaussons. Valentin traîne une petite valise et un sac plastique rempli de vêtements. Il a pris le strict nécessaire, de quoi tenir quelques jours.
On a pris juste les affaires essentielles. Il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage et ça sent mauvais en tout cas au 8e étage. On ne peut pas dormir là-dedans, clairement non. Puis en plus là on vient de monter, donc je viens voir l'immeuble tout brûlé. C'est un peu émouvant quand même.
Encore sonné, pétrifié devant l'immeuble, certains habitants reviennent voir si tout n'a pas disparu dans les flammes. Après avoir enjambé quelques lance-incendies, est passé le ruban rouge et blanc du périmètre de sécurité. Quelques minutes plus tard, Clément ressort avec un gros sac noir. Il veut être le plus loin possible du 17 bis rue Erlanger.
Je n'ai pas forcément envie d'y retourner maintenant. Surtout de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'était très choquant. Même le feu était assez impressionnant. J'avais clairement jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment atroce. Moi, je l'ai vu, il y a quelqu'un du 5e étage qui est tombé de son balcon par terre. C'était angoissant. Donc, j'avais vraiment pas envie de revoir ça. Quoi.
Hébergé chez un ami, Clément ne sait pas s'il sera prêt ce soir à dormir de nouveau chez lui.
Reportage signé Mourad Djabari. Au total, 120 personnes ont été évacués, une vingtaine ont été relogés par la mairie de Paris. Et on n'en sait plus sur le profil de la suspecte, une femme de 41 ans. On le disait, elle souffre depuis longtemps de troubles mentaux. Elle a été admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Son état a été jugé incompatible avec une garde à vue. Elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique mercredi dernier. Et on apprend qu'elle avait effectué ces 10 dernières années pas moins de 13 séjours en internement. Information RTL d'Olivier Bois. Alors je voudrais savoir si vous avez été confronté à la maladie mentale par un de vos proches, amis, famille. Est-ce que vous avez demandé l'internement? Et puis on ira plus loin à 6h15 avec le docteur Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On attend vos réactions au 32-10. La proposition de loi anti-casseurs largement adoptée à l'Assemblée, mais ce texte venu des rangs de la droite a été boudé par une partie de la majorité. 50 abstentions au sein du groupe En Marche. Ces députés jugent le projet liberticide. La proposition de loi donne au préfet, et non pas au juge, le pouvoir d'interdire certains profils des manifestations. Mathieu Orphelin, député LREM du Maine-et-Loire, fait partie des abstentionnistes.
Je viens de m'abstenir, comme prévu, sur ce vote en première lecture de la loi anti-casseurs. D'abord, je pense qu'il y a des dispositifs très intéressants dans cette loi pour lutter contre l'action des casseurs. Je pense à l'interdiction de couvrir son visage quand on vient manifester. Et puis à côté de ça, il y a cet article 2 qui prévoit une nouvelle interdiction administrative de manifester. Et donc cet article 2, il pose problème. Mais on l'a vu, les prises de parole des différents... personne dans l'Assemblée, beaucoup d'un syndicat de police qui a dit « Excusez-nous, mais cet article-là, il n'est pas opérant et en plus, il pose un problème face à la liberté de manifester. Si jamais, bien sûr, un pouvoir mal intentionné venait à diriger le pays, ce n'est pas une abstention pour se cacher. C'est une abstention pour dire « Oui, il y a des dispositifs intéressants, mais oui, l'article 2, il va falloir qu'on le modifie. » Mais il y a le temps, on est en première lecture, il y a la deuxième lecture. Et moi, je pense que compte tenu du nombre d'expressions, il y aura une réécriture.
Mathieu Orphelin avec Vincent Derosier. La loi anti-casseurs poursuivra son parcours au Sénat en mars avant de revenir devant les députés. 300 000 manifestants CGT et Gilets jaunes partout en France. Hier, ce sont les chiffres des organisateurs. 137 000 d'après la police. Défilé sans incident, mis à part quelques poubelles brûlées à Bordeaux. La cote d'Emmanuel Macron remonte dans le cœur des Français. À en croire le dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match, le président gagne 6 points en février à 34%. Il retrouve son niveau d'octobre. Emmanuel Macron qui annonce la création d'une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Plus d'un million et demi de morts en 2015, en 1915 et 1916. La date de cette commémoration a été fixée au 24 avril. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Donald Trump en rassembleur pour son traditionnel discours sur l'état de l'Union. La Maison-Blanche avait promis un discours d'unité. Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour.
Ça a été le cas, discours d'unité?
Oui, l'unité, c'est la tradition du discours sur l'état de l'Union. Et effectivement, le président a tenté de rester dans cette ligne-là en saluant, par exemple, les nombreuses femmes élues au Congrès en novembre, essentiellement des démocrates. Beaucoup d'entre elles étaient habillées en blanc. Elles ont crié ensemble « USA, USA ». Message d'unité parce qu'il doit désormais cohabiter avec une chambre démocrate. Il ne peut plus faire passer de loi sans compromis avec le parti d'opposition. Mais il lance aussi cet avertissement aux représentants démocrates qui ont désormais le pouvoir d'ouvrir une procédure de destitution. Il dit que cela menacerait, je cite, le miracle économique.
Les seules choses pouvant arrêter cela sont les guerres idiotes, la politique ou les enquêtes ridicules et partisanes. Si on veut avoir la paix et des mesures législatives, on ne peut pas avoir de guerre ni d'enquête. C'est juste que ça ne marche pas comme ça.
Et à ce moment-là, on a vu juste derrière son épaule la nouvelle présidente de la Chambre démocrate soupirer, se retenir de lever les yeux au ciel. Autre sujet de division, l'immigration. Il affirme, je cite, qu'un énorme assaut d'illégaux se prépare. Il a aussi cité des chiffres grossièrement faux sur l'insécurité dans une ville frontière. Et pourtant, s'il veut bâtir son mur, il lui reste seulement 10 jours pour trouver un compromis budgétaire avec les démocrates. L'unité, c'est plus facile à faire qu'à dire, en fait.
Merci beaucoup, Philippe Corbet, en direct de New York. Et on y reviendra, bien sûr, avec vous un air d'Amérique à 6h moins quart. Pape François s'est encore livré à des confidences dans son avion au retour de son déplacement aux Émirats Arabes Unis. Il a reconnu que des prêtres et des évêques avaient agressé sexuellement des religieuses. Un problème toujours d'actualité, précise le pape, qui n'a pas cité de pays ou de congrégation particulière. RTL 5h07, on reparle du poison du surendettement. À l'origine de nombreux suicides par le passé, la loi qui protège mieux désormais les consommateurs semble porter ses fruits. Le nombre de Français en situation de surendettement baisse pour la 6e année consécutive d'après la Banque de France qui reçoit les dossiers. Malgré tout, près de la moitié des surendettés sont sans capacité de remboursement et surtout, leur profil a évolué. Il y a de plus en plus de familles monoparentales qui se retrouvent en difficulté, en majorité des femmes. Stéphane Tourte, directeur des particuliers à la Banque de France.
Au tout début de l'histoire du surendettement, c'était une période de forte augmentation du recours au crédit à la consommation. Et donc il y a eu un effet d'apprentissage où on avait des personnes ou des ménages qui se retrouvaient en incapacité de rembourser les crédits qu'ils avaient souscrits de façon surabondante. Alors qu'aujourd'hui, la part du crédit à la consommation dans le surendettement a fléchi de près de 20 points. Les personnes ou les ménages qui se trouvent en situation de surendettement sont des personnes en situation de relative plus grande fragilité, soit au regard de leur situation familiale, ce sont souvent des personnes seules, près de 68%. Des situations, soit au regard de leur situation par rapport à l'emploi. Plus d'une personne sur deux n'a pas d'emploi au moment où elle dépose son dossier de surendettement. Ce sont des personnes aussi dont le niveau de revenu est plus faible que celui de la moyenne de la population. Donc tous ces éléments qui rendent une personne ou un ménage plus vulnérable à une situation de surendettement.
Stéphane Tourte de la Banque de France avec Armel Lévy. Est-ce que vous avez déjà été en situation de surendettement? Vous êtes retrouvé dans ce cercle vicieux? Comment y êtes-vous entré? Surtout, dites-nous comment vous vous en êtes sorti. Si c'est le cas, on attend vos témoignages au 3210. RTL 5h09, devenir boucher en s'amusant. C'est l'idée de cette entreprise de Rennes, Boucher Service, qui emploie 1300 salariés partout en France pour tenter de rebooster une filière qui souffre d'une crise des vocations. La société fait appel à la réalité virtuelle. C'est une première en France. L'apprenti boucher opère avec un casque sur la tête dans un bureau. Patrice Gabart a testé pour nous. C'est un jour en France.
Oui, avec ce casque de réalité virtuelle, je débarque d'abord dans une boucherie industrielle, le vestiaire, le sas hygiène et protection. Puis au troisième clic, je me retrouve au milieu des carcasses de bœuf qui défilent à la chaîne, devant une dizaine de bouchers couteau à la main. Anne-Sophie Tilly-Robin, directrice de Boucher Service.
Les ateliers dans lesquels nous on travaille, c'est des ateliers qui sont blancs. Toute la partie abattage a été faite bien avant, donc on ne voit pas tout ce process-là d'abattage. Et nous, c'est vraiment comme si on rentrait dans une boucherie, mais à taille géante.
Place maintenant la pratique. Un clic juste derrière la tête de l'animal qui apparaît à l'écran, c'est le collier. Des dizaines de kilos d'usure des doses qui arrivent sur le bio. Ma manette main droite se transforme alors en couteau. Un autre couteau fantôme, celui-là, me montre les bons gestes pour désosser, avec des pointillés à suivre comme les dessins d'enfants. Et là, mon couteau virtuel cogne, vibre, je rate la cible.
C'est facile de désosser, hein. Vous n'êtes pas passé sur tous les points, vous avez été trop vite. Où il y a la flèche, allez doucement. Voilà, où il y a la flèche, cliquez en dessous, vous soulevez votre main comme si vous soulevez l'os en fait. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez passer derrière l'os.
Finalement, mes 3 essais seront invalidés. Trop de précipitation, on ne se refait pas. Cette préformation unique en France répertorie plus de 600 gestes pour désosser, parer et préparer la viande. Tout un métier.
Reportage signé Patrice Gabart. On passe au sport. Marseille refait surface. Les Marseillais n'avaient pas gagné sur leur pelouse depuis novembre, mais le stade était vide à cause d'un incident fin janvier. Lors d'un match face à Lille, l'OM a battu Bordeaux en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, 1-0. Il faut que ce soit le début d'une série, dit l'entraîneur Rudy Garcia. En Coupe de France, voici les 4 qualifiés pour les quarts de finale. Caen a battu Bastia au tir au but. Nantes, qui a éliminé Toulouse 2-0, rejoint également Dijon, qui a écarté les nordistes de Croix 3-0. Qualification également d'Orléans, vainqueur de Metz 1-0. Ce soir, le PSG se déplace à Villefranche-sur-Saône. Vitré reçoit Lyon-la-Duchère et Rennes Lille. Marina, vous prenez la parole pour nous dire qu'il y a encore beaucoup de brouillard ce matin.
Oui, les brouillards sont encore nombreux, puis encore une fois c'est sur l'ouest du pays, mais aussi l'extrême nord, donc brouillard, mais bon, comme il y a un peu moins de gelée, les gelées sont surtout à l'est, et bon, les brouillards sont un petit peu moins nombreux, mais il peut y en avoir. À l'est, le ciel est plutôt dégagé, ce sera du beau temps d'ailleurs sur l'est du pays. En gros, alors l'Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, il y aura un petit voile, mais ça restera bien lumineux. Et puis en allant vers Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon, mais aussi le sud de la Nouvelle-Aquitaine, vers les départements pyrénéens, là ce sera du bleu avec un petit peu de vent sur les côtes partout ailleurs. Ce sont les nuages qui dominent. Alors quand même quelques éclaircies possibles du nord de la Garonne au Limousin en remontant vers la Champagne. Mais voilà, vers le nord, le nord-ouest du pays, là c'est bien gris avec quelques averses, surtout de la Bretagne à la Normandie, au Hauts-de-France, mais ça pourra toucher de façon localisée l'Île-de-France, mais aussi les pays de la Loire. C'est une petite perturbation qui donne d'ailleurs du vent sur les côtes du nord-ouest. Pour les températures, là ça va bien grimper, je vous le disais, donc toujours dégelé là où le ciel est dégagé sur l'est, mais sinon cet après-midi, on va encore gagner quelques degrés, 7 à Reims, 9 à Lille, 10 à Paris. Il fera 12 degrés à Cognac et on ira jusqu'à 18 à Perpignan tout de même.